Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi, nous sommes le 11 février. La première soudure de rail du tramway T9 au Mas du Taureau. À la prison de Corba, le personnel pénitentiaire a observé une journée de grève hier. Les personnels en grève également du côté du service des urgences de l'hôpital privé Jean Mermoz dans le 8e arrondissement. Le mouvement perdure. À Neuville, un hommage public à Éric Bello. Demain, mercredi, le maire de Neuville-sur-Saône s'est éteint jeudi dernier à 64 ans. Les polluants éternels, la CGT écrit au Premier ministre François Bayrou. Il y a 20 ans, la loi du 11 février 2005 promettait l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 20 ans plus tard, que reste-t-il de cette loi ? Est-elle appliquée ? Nous avons rencontré Jean-Luc Saber. Il nous raconte ses difficultés au quotidien en tant que personne en situation de handicap. Et nous avons croisé également le représentant régional de l'APF, Thierry Habert. Un rassemblement ce soir devant la préfecture. Le collectif Solidarité entre femmes à la rue entend dénoncer les violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes mal logées ou sans logement. Et puis un trophée pour le cinéma Le Comédia, avenue Berthelot.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La première soudure de rail du tramway T9 au Mas du Taureau. Le T9 doit être inauguré au second semestre 2026. 11,3 km, dont 8,8 de nouvelles voies et 2,5 km de tronçons communs avec le T1 et T4 entre Croix-Luisay et Charpennes. Ces 8,8 nouveaux kilomètres nécessitent 2000 soudures de rail. La ligne T9 comptera 19 stations, dont 12 nouvelles. Le futur tram circulera à travers les quartiers du Mas du Taureau et de Saint-Jean, ce qui va contribuer au désenclavement de nos quartiers populaires, a rappelé la maire de Vaux, Hélène Geoffroy. 38 000 voyageurs quotidiens sont prévus dans ce tramway en 2030. T8, T9 et T10 constitueront une rocade de transport en commun sans avoir à repasser par le cœur de l'agglomération, a rappelé pour sa part le président de Citral Mobilité, Bruno Bernard. À la prison de Corba, le personnel pénitentiaire a observé une journée de grève hier pour protester contre la surpopulation carcérale et les conditions de travail conçues pour 618 détenus. La prison de Corba en accueille près du double, 1150 personnes. Les grévistes réclament également le renouvellement de certains contrats administratifs. De nombreuses affaires ont dû être renvoyées hier, les extractions étant bloquées par le mouvement. Les personnels en grève du service des urgences de l'hôpital privé Jean Mermoz dans le 8e sont en grève depuis le 3 février. Ils avaient un nouveau rendez-vous hier avec la direction. Les secrétaires, aides-soignantes, infirmières du service dénoncent les conditions de prise en charge des patients et les niveaux de rémunération. La grève se poursuit aux urgences. Aucun accord n'a été trouvé. À Neuville, un hommage public à Éric Bello, demain, mercredi. Le maire de Neuville-sur-Saône, Éric Bello, est décédé jeudi dernier à 64 ans après un long combat contre le cancer. Rendez-vous demain à 14h30 à l'espace Jean Villard. De nombreux élus seront présents, mais aussi des personnels de l'éducation nationale. Éric Bello a dirigé de grosses structures comme le lycée Albert Camus à Firminy ou encore le lycée Jean-Paul Sartre à Bron. Éric Bello était également représentant du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Un registre de condoléances est aussi ouvert à l'accueil de la mairie de Neuville. Les polluants éternels, la CGT écrit au Premier ministre. Sa fédération de la chimie expose 7 propositions, notamment la cartographie de l'exposition via des prélèvements sanguins des salariés volontaires, la transparence sur les produits chimiques utilisés, leur dégradation, le suivi médical des salariés, la reconnaissance des maladies générées par les PFAS comme maladies professionnelles et enfin des dispositions législatives pour obliger producteurs et utilisateurs de PFAS à leur trouver des alternatives.
Lyon demain ? Écoutez ma différence.
Il y a 20 ans, la loi du 11 février 2005 promettait l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les personnes en situation de handicap sont encore au quotidien empêchées et privées de leurs droits fondamentaux, comme se déplacer librement, aller à l'école, travailler, se soigner, avoir un logement, des loisirs, une vie intime, affective et sexuelle. Nous avons rencontré Jean-Luc Saber. Il nous raconte ses difficultés au quotidien en tant que personne en situation de handicap.
Compte tenu de la nature de mes handicaps, j'ai des problèmes très spécifiques auxquels je suis confronté quotidiennement. J'ai un handicap moteur évolutif. Suite à un accident de trajet dans le métro, je suis tombé sur le genou, j'ai eu une rupture du tendon du quadriceps non diagnostiquée à temps, avec comme séquelle une atrophie musculaire. L'arthrose s'est posée dessus et j'ai eu une arthrose qui est de plus en plus invalidante. C'est très difficile à supporter et comme un malheur n'arrive jamais seul, j'ai été victime d'une surdité brusque au début du Covid qui m'a fait perdre ma bonne oreille. J'avais une main oreille, ce qu'on appelle l'oreille saine. J'avais une oreille qui était déjà affaiblie à cause par les séquelles de la maladie de Ménière. C'est très très difficile. On est dans un monde, culturellement, on se paye la tête des sourds. Exemple, expression sourd comme un pot. Les sourds sont objets de raillerie, de mépris, contrairement aux aveugles. Par exemple, on n'oserait jamais se moquer d'un aveugle, mais alors pour les sourds, l'inconvénient c'est que les interlocuteurs, comme c'est un handicap invisible, ils ne mesurent pas l'importance du handicap. Ils ne font aucun effort. Moi j'ai une vie sociale intense, je n'ai pas de vie privée, je suis seul, je n'ai pas de famille, donc ma vie elle est orientée vers l'extérieur. Et c'est très compliqué dans les réunions, dans tous mes contacts, de faire comprendre que j'ai ce handicap qui me pose des gros problèmes pour suivre les réunions notamment. Et puis alors, non seulement on méprise les sourds, mais on ne sait pas du tout comment aborder la surdité quand on est normo-entendant. Si on dit quelque chose que le malentendant n'a pas compris, on a tendance à répéter le dernier mot, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est répéter le mot clé, c'est la phrase entière, et surtout le verbe qui est le mot clé pour la compréhension. Ça, c'est un combat permanent. Il faut essayer de lire sur les lèvres, de deviner ce qui se passe. Je suis retraité, j'étais cadre, maintenant je suis retraité depuis 13 ans. Mais néanmoins, je suis toujours dans la vie active, mais j'habite, par exemple, au fond d'une impasse, ce qui n'est pas évident. Et puis, je ne circule pas en fauteuil, je circule sur les trottoirs. Pour circuler sur un trottoir dans les grandes villes, on s'imagine que les trottoirs sont tout plats. Non, ils sont presque tous en pente, et c'est jamais en pente douce. Il y a des trottoirs qui sont abaissés pour tenir compte des personnes handicapées, mais la majorité des trottoirs n'ont pas cet aménagement, et ils ont souvent une double pente. Pour moi, c'est comme si j'étais obligé de gravir l'Himalaya.
Quand on est dans la situation que vous décrivez, on a l'impression un petit peu d'être abandonné par la société.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de solidarité, c'est chacun pour soi. Il y a des évolutions sociétales et puis l'évolution de certains équipements qui font que le repli sur soi est accentué. Aller dire à quelqu'un qui est en train de consulter son smartphone qu'il entrave la circulation d'une personne en situation de handicap, non, c'est impensable. La priorité des priorités, les excuses suprêmes, c'est le smartphone, que ce soit la conversation ou que ce soit la consultation de l'écran. C'est l'instrument de l'individualisme par excellence. On n'a pas fait mieux depuis qu'on a inventé le smartphone. Les gens ne pensent qu'à eux, ils sont pas là. Ils sont ailleurs avec leurs interlocuteurs.
Pour les 20 ans de la loi handicap, les associations expliquent qu'il s'agit d'un non-anniversaire, en particulier la délégation APF France Handicap du Rhône, qui se mobilise pour exiger que la République respecte enfin ses engagements. Nous avons rencontré le représentant régional de l'APF, Thierry Habert.
La loi, c'était en fait que les personnes handicapées aient les mêmes droits que tout autre citoyen, que ce soit au niveau de l'accessibilité dans l'ensemble des bâtiments, accessibilité à la santé, accessibilité à vivre la vie de citoyen. On s'est aperçu, notamment au niveau de l'accessibilité, au bout de 10 ans, que il y avait quasiment rien d'effectué. Le gouvernement a mis en place ce qu'ils appelaient les ADAP, donc qui donnait en fait 3 ans, 6 ans ou 9 ans pour que l'ensemble des établissements qui recevaient du public se mettent en accessibilité. Et que les ADAP étant terminés depuis pas mal de temps, on s'aperçoit que le compte n'y est toujours pas.
Alors vous dites aujourd'hui c'est un non-anniversaire, pourquoi ?
C'est un non-anniversaire parce que on n'est pas content de ce qui a été fait et que les moyens n'ont pas été mis en place pour arriver à une égalité de chance des personnes en situation de handicap.
Aujourd'hui, les difficultés d'une personne en situation de handicap, c'est quoi, par exemple, concrètement ?
Ça commence déjà au niveau des transports, c'est-à-dire nombre de transports ne sont pas accessibles. Un citoyen lambda, quand il veut se rendre d'un point A à un point B, il prend son ticket, il monte dans le bus, il monte dans le train, et puis... Bon, quelquefois il arrive à l'heure, quelquefois il arrive en retard. Une personne handicapée, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'elle doit préparer tout son trajet et que elle a toujours un risque de rupture de charge en route, c'est-à-dire se retrouver sur un quai avec le train suivant qui n'est pas accessible. Donc ça, c'est au niveau des transports. Au niveau de l'accès à la santé, il y a donc pas mal de médecins, dentistes qui ne sont pas accessibles. Dans l'accès aux loisirs, les théâtres, cinémas sont pas tous accessibles non plus. Au niveau des écoles, les écoles ne sont pas préparées pour accueillir des enfants en situation de handicap. On voit que c'est toute la chaîne de déplacement et toute la vie qui n'est pas adaptée. Puisque la loi 2005, c'était bien que la société devait s'adapter aux besoins de chacun et qu'on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la personne handicapée qui doit s'adapter au manque d'accessibilité de la société.
Il y a une vraie discrimination aujourd'hui ?
Oui, elle est souvent non dite. Et puis, donc c'est souvent des réflexions comme quoi on ne peut pas vous recevoir. Le regard aussi, c'est-à-dire que quand on a une personne handicapée en face de soi, il ne faut pas l'ignorer. Il faut la regarder en tant que personne et non pas en tant que handicap.
Qu'est-ce qu'on vous dit pour expliquer ce retard ? C'est quoi ? C'est une question de moyens ? C'est une question de quoi ?
Une question de volonté politique au départ qui n'ont pas été mis en place, puisque dans la loi 2005, il était prévu des sanctions en cas de non-application de la loi. Or, les sanctions n'ont jamais été appliquées. Donc ça, c'est une volonté politique, déjà. Et puis, il y a aussi un manque de culture. Le manque de culture du handicap et le manque de culture de s'ouvrir à tous. C'est-à-dire que le mot fraternité est bien souvent le mot le plus oublié.
Il y a des mesures qui ont été annoncées, qui n'ont pas été forcément remplies immédiatement. Aujourd'hui, on nous parle à nouveau de cette prise en charge des fauteuils.
Oui, ça va dans le bon sens. Je me fie quand même des effets d'annonce, puisqu'on nous annonce que les fauteuils seront remboursés à 100%. Au niveau effectivité, il faut voir si c'est réellement le cas. Et que, on nous parle des fauteuils, mais il y a un tas d'autres dispositifs, ne serait-ce que les dispositifs auditifs, qui ne sont pas remboursés à 100%. Donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, les fauteuils. Quoi. C'est-à-dire c'est un gros effet d'annonce pour l'instant, et puis on attend de savoir comment ça va être mis en place.
Qu'est-ce qui explique cette différence entre les Jeux paralympiques qu'on a connus cet été, qui ont provoqué un réel engouement, et puis la réalité des faits sur le terrain ?
Sortie des Jeux olympiques, le premier gouvernement qui a été mis en place, on a oublié d'avoir un ministre du handicap. Bon, quand les gens sont devant leur télé, ça fait bien de voir des athlètes handicapés, et sortie de là, une fois qu'ils éteignent la télé... on retourne à la vie habituelle et on les oublie aussi. Et on oublie que quelquefois, quelqu'un d'handicapé, il faut l'aider.
Si on ne l'aide pas, il faut qu'il ait des aidants. Et ça se répercute également dans les familles, chez les proches.
J'ai été surpris, sur une réunion, d'avoir une maman de 60 ans qui disait « Mais quand je vais décéder, que va devenir mon fils ?» Et on se rend compte qu'un parent aidant a son enfant à charge toute sa vie. C'est-à-dire qu'il met un trait sur sa vie professionnelle et sur sa vie de famille, bien souvent. Ça, c'est inadmissible.
Et ça, c'est d'autant plus vrai si les mesures d'accompagnement ne sont pas là ?
Oui, tout à fait. Il y a des gros problèmes d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a des services d'accompagnement qui manquent de personnel. Donc on fait appel à des personnels intérimaires qui ne sont pas forcément formés. Et avec un turnover qui est énorme, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont chez elles et tous les deux jours, les aidants changent et donc il y a un manque de suivi. Dans un établissement, quand il manque des aidants, il y a un retard sur le traitement de la personne. Quand la personne est chez elle, qui manque des aidants, elle va rester quelquefois une journée et attendre que quelqu'un vienne et elle attend. Et personne ne vient, et c'est là qu'on la met en danger.
Les plus grandes villes ne sont pas forcément les plus adaptées, on pense notamment à Paris. Qu'en est-il de Lyon ?
Au niveau de Lyon même, il y a eu des efforts de fait. Le métro est beaucoup plus accessible qu'à Paris, où il est absolument pas accessible. La métropole fait des efforts. Après, sortie de la métropole dans les petits villages, on a autant le droit d'aller habiter dans un petit village que dans une grande ville et une métropole. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a des services de substitution qui sont mis en place pour pallier au manque d'accessibilité des structures générales, notamment au niveau des transports. Donc, comme l'ensemble des transports ne sont pas accessibles, on propose un véhicule spécifique pour accompagner la personne handicapée.
Mais encore une fois, c'est la personne handicapée qui doit s'adapter finalement.
Tout à fait. Quand en fac, vous avez un jeune qui est handicapé, si l'ensemble de ses copains disent bah, « Tiens, on va traverser la ville pour aller manger une pizza », le jeune handicapé ne peut pas se joindre à eux, c'est-à-dire qu'il n'a pas prévu son transport. Il se trouve, en fait, marginalisé par rapport à ses camarades.
L'urgence, c'est quoi, là, à court terme ?
Ça fait 20 ans qu'on est dans l'urgence, quoi. C'est l'urgence, c'est surtout qu'on prenne conscience que la personne handicapée a les mêmes droits que tous les autres et qu'elle fait partie intégrante de la République.
Thierry Haber, le représentant régional d'APF France Handicap, le mouvement national Faisons bouger la République, porté par APF et le collectif Handicap, rassemble 54 associations représentatives des personnes en situation de handicap, des familles et de leurs proches. Toutes sont engagées pour le respect des droits des 12 millions de personnes en situation de handicap et des 11 millions d'aidants en France. Ces associations rappellent que chacun, chacune, à son niveau, peut et doit agir pour construire une société plus inclusive, mais que l'État doit aussi respecter ses engagements en matière de droits humains et que les entreprises doivent devenir de véritables actrices de l'inclusion en agissant pour l'accessibilité et contre les discriminations. Plus d'informations sur le mouvement en allant sur faisonsbougerlarépublique.org. Un rassemblement est prévu ce soir devant la préfecture. Le collectif Solidarité entre femmes à la rue entend dénoncer les violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes mal logées ou sans logement. Le collectif demande une réunion d'urgence avec la préfecture, la mairie, la métropole pour mettre fin aux violences envers les femmes sans logement, mais aussi la réquisition de logements vides, des équipements municipaux et métropolitains ou encore une politique de mise à l'abri immédiate pour les femmes et les enfants. Le Comédia a reçu le trophée de luxe du meilleur exploitant de cinéma décerné par le magazine professionnel Le Film Français. Ce prix vient récompenser le travail des exploitants. Avec 9 salles et une capacité de 1050 places, le cinéma de l'avenue Berthelot affiche près de 400 000 spectateurs chaque année. Le cinéma racheté à UGC par Marc Bonny dans les années 2000 est aujourd'hui géré par Renan Frémondière et Frédéric Dupéret. Films d'auteur en VO, films documentaires, reprises, soirées débats, rencontres avec les réalisateurs sont régulièrement organisés tout au long de l'année dans ce cinéma centenaire. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition.